Vous avez continuellement des difficultés à manger comme ça?
Mm-hmm. Encore la mâchoire, elle a encore là.
Oui. Qu'est-ce que l'impression ça fait? Vous êtes serré?
Et puis alors, vous voyez, j'arrive, je fais des miettes par la langue qui n'arrive pas encore à se...
À fonctionner normalement?
Ah, ben, à fonctionner normalement, elle fonctionne déjà mieux, mais pas encore comme elle devrait fonctionner, quoi. Alors... Je n'arrive pas vraiment à attraper mon manger, vous voyez. Et quand je mange, vous voyez, la mâchoire est encore un peu crispée, je ne sais pas.
Un peu crispée, c'est ça.
C'est crispé, encore un petit peu. J'ai commencé à avoir mes crispations, mes grimaces en 1968. Et j'ai eu un choc nerveux quand j'ai appris que mon mari, c'était le varié. Et je l'ai très mal appris. C'est en allant à mon travail, à 2 heures, que j'ai rencontré un collègue de la commune. Qui m'a dit, mais on vous a pas offert de dragées? J'ai dit, mais les dragées de qui? Alors, il m'a dit, ben, j'ai dit, pourtant, j'ai personne de la famille qui s'est remariée. J'ai dit, mais vous savez pas qui dit votre mari s'est remarié? Hein? J'ai dit, non, j'ai dit, je savais pas. Et quand je suis arrivée à mon travail, j'ai demandé à mes collègues, s'ils savaient qu'il était remarié, alors m'ont répondu oui, mais on n'osait pas le dire.
Ce qui rend cette observation particulièrement intéressante, c'est le fait qu'au trouble psychofonctionnel que vous avez vu, cette espèce de contracture péribuccale qui gêne la mastication, s'associait un volumineux ulcère gastrique. Les frontières qu'on a voulu établir entre les syndromes psychofonctionnels et les maladies psychosomatiques vraies, organiques, comme l'ulcère, ne sont peut-être donc pas aussi nettes qu'on a voulu le dire. Autre point intéressant, comme vous l'avez entendu, les deux affections sont apparues le même jour, à la suite d'un traumatisme psychique que la malade a ressenti comme très pénible, le remariage de son ex-mari. Voici l'ulcère de cette malade. C'est une ulcération de la face postérieure du fondus de l'estomac. Elle est vraiment très volumineuse, comme on peut le voir. Malgré son importance, après 3 semaines de traitement, l'ulcère a considérablement régressé et actuellement, c'est-à-dire depuis 3 ans que nous suivons la malade, cet ulcère est complètement guéri. Il est à souligner, en fait, que l'ulcère de cette patiente a régressé beaucoup plus vite que sa contracture péribuccale. Mais ce que je peux vous révéler aujourd'hui, c'est qu'à l'heure actuelle, sa bouche s'est également beaucoup améliorée depuis que la patiente a appris que son ex-mari remarié était décédé.
Je crois que nous avons tous constaté l'extrême agressivité de cette malade dans son syndrome, dans son symptôme facial. Ce symptôme a été atténué grâce à une excellente relation avec son médecin. Il est vrai qu'une psychothérapie d'un type particulier a été tentée sur sa demande dans un autre hôpital. Et on peut se demander là, est-il sage d'entreprendre des techniques psychothérapeutiques par un spécialiste ou au contraire de continuer une relation bien établie avec le spécialiste somaticien.
Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, je vous prie.
Moi, vu mes nerfs, je n'arrive pas à expliquer. Alors, je me suis inscrit sur un papier, justement. Alors, je vais vous lire, docteur. Depuis 2-3 semaines, j'aurai une légère amélioration des coliques où, en moyenne, je fais 2 à 4 selles dans la matinée au lieu de 5 à 7 auparavant d'un volume moyen ou bien souvent assez abondant. En général, elles sont moulées, mais se désagrègent très rapidement et sont affreuses, hachées, avec énormément de petites peaux de toutes sortes et des déchets de carottes, ou quand je mange, démange tout, je retrouve les haricots entiers dans mes selles, des petites peaux dans mes selles, ou des peaux de compote, de pruneaux ou de cerises. Depuis plus de 3 ans, je ne mange aucune crudité, que ce soit légumes ou fruits. Souvent, vers les 5 à 6 heures du matin, j'ai des gaz qui se coincent dans le dos, un peu au-dessus de la taille, et me réveillant malgré que j'aurais énormément envie de dormir.
Vous avez fait des radios, je suppose.
Oui, justement, je me soigne pour un traitement, vu que je suis allergique aux médicaments. Alors, des traitements manuels, par manipulation pour les nerfs. Alors, le docteur, une fois, m'avait fait sortir, regarder le ventre. À peine, je me suis ouvert le ventre. Elle m'a dit, il faut aller faire des examens immédiatement.
Et c'est à ce moment-là qu'on vous a fait des radios. Oui. Est-ce que vous voulez me les montrer, s'il vous plaît?
Justement, alors là, il m'a fait des examens. Voici toutes les radios, de la vésicule, un lavement barité. Et pardon, docteur,
excusez-moi. Je vous en prie, oui. Il y en a pas mal, là.
C'est tous les dernières de 72, là. Qui ont été faites tous en série. Sauf qu'il y a celle du Graal, là, de 70.
Oui. Vous avez sûrement des traitements qu'on vous a déjà prescrits.
Oui,
est-ce que vous voulez me les montrer, s'il vous plaît?
Pardon. Alors, justement, vu que je suis allergique aux médicaments, l'homéopathie, là. Alors, justement, là, on m'avait enseigné. Alors, là, c'est ce docteur, il a commencé par de l'acupuncture. Alors, c'était pour débloquer les rouages. Et après, moi, j'ai insisté pour qu'il m'en fasse. Il m'a dit, il faut faire un trait d'acupuncture tous les 3 mois. Et puis, je vous donne un traitement d'homéopathie.
Oui, et je vais en prendre connaissance.
D'un mois et demi.
Oui.
Et un mois et demi, vous restez sans rien.
Bon.
Alors, j'étais très content, vu que pour pas suivre, pour éviter de devenir allergique dans l'homéopathie. Alors, je me suis dit, bon, tant mieux.
Et alors, l'autre paquet que vous avez que ce ne sont pas des examens pour vos... Ça concerne quoi? Sortez un petit peu. Parce que là, vous avez encore d'autres documents, je crois.
Là, c'était que quand j'ai souffert... C'est parce que j'ai fait ma 7e cure à Néris.
Il est évident qu'on a affaire ici à un hypochondriaque délirant. Ce qui paraît particulièrement regrettable, c'est que le nombre de radios et de traitements le prouve, les médecins ont manifestement exploité ce pauvre homme. Quant au traitement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut bien reconnaître que nous sommes très démunis dans de tels cas.
Entièrement d'accord avec vous, tant sur le traitement que sur le diagnostic. Mais c'est l'impuissance même du médecin qui le pousse aux investigations et aux traitements multiples qui nous coûtent si cher. C'est vrai. Mais peut-être en le faisant, en intervenant sur le versant somatique, évite-t-il tous une psychiatrisation encore plus grave de ce malade? Je me le demande.
Non.
Vous plaignez d'avoir des éructations?
Oui.
Depuis combien de temps?
Depuis 4 ans.
Depuis 4 ans. Vous êtes très gêné.
Pas seulement gênée, mais paralysée.
Oui, pourquoi?
Parce que toute ma vie est conditionnée à cause de ces renvois. Je n'ose plus sortir dans la rue parce que j'en ai dans la rue.
Oui.
J'ose pas inviter les gens chez moi.
Oui.
J'ai peur quand mes enfants invitent des amis. Donc, j'essaie de me cloîtrer le plus possible pour ne pas incommoder les autres.
Parce que on vous entend.
On m'entend.
Ils sont très bruyants, ces renvois.
Très.
Est-ce qu'ils sont influencés par les repas?
Non.
Par la nature de ce que vous mangez?
Aucun rapport, j'en ai autant à jeun qu'à pas manger.
Est-ce qu'il y a des circonstances plus particulières où vous les éprouvez?
Non.
Par exemple, si vous êtes contrarié, ému.
Non, non. Les grandes émotions, non.
Certaines positions du corps. Par exemple, est-ce que vous en avez plus lorsque vous êtes couché ou...
Je me couche peut-être quand j'en ai beaucoup, parce que j'ai l'impression que si je dors, j'en aurai pas.
D'accord. Est-ce qu'il y a des circonstances où vous ne les avez pas du tout et à coup sûr?
Oui.
Par exemple, si vous êtes très attentive à quelque chose.
Oui.
À quoi, par exemple?
Si je joue aux échecs.
Ah bon? Quand je joue aux échecs, vous êtes sûr de ne pas avoir d'irritation? Oui. C'est ça. Oui. Comment ça a commencé? À quelle période de votre vie ça a commencé?
Ça a commencé en début 68. Je ne sais pas pourquoi.
Mais est-ce que tout de même, à cette période-là, il ne s'était pas passé quelque chose d'un peu particulier dans votre
vie? Si, il y a eu un changement dans notre famille. Mon beau-père est parti.
Oui.
Il vivait avec nous, il est parti. Il est parti en Israël.
Oui.
Pour mourir, et effectivement, il y est mort.
Oui. Du point de vue purement sémiologique, il s'agit d'une aérophagie éructante. Je suis peut-être un peu naïf, mais il y a dans l'attitude de cette femme quelque chose qui me touche, quelque chose d'un peu dramatique. Elle ressemble plus, à mon avis, à une victime qu'à une comédienne. C'est pourquoi le diagnostic du seuil de conversion, que vous avancerez sans doute et qui doit être le bon, ne me paraît pas entièrement satisfaisant. D'ailleurs, cette patiente n'avait aucun des traits parmi ceux qu'il est convenu d'attribuer à la personnalité hystérique. Je me dois quand même de reconnaître qu'elle est capable de provoquer son symptôme elle-même. Il est évident que tous les gens qui rotent à volonté ne sont pas des hystériques, mais ce petit talent de société est probablement lié à une béance anormale du cardia. L'hystérique doit pouvoir s'en servir pour élever cette particularité au rang de symptôme. Vous allez d'ailleurs voir la malade qui rote sur commande. Elle exécute une sorte de contorsion du dos qui a probablement pour but de mobiliser le diaphragme d'une façon telle que se trouve facilitée l'évacuation de la poche à air gastrique. En somme, son symptôme est à cheval sur le domaine du muscle strié et de la musculature lisse.
Allez-y.
Ah!
Encore.
Ah! Ah!
Je crois qu'il s'agit d'un syndrome conversif, mais cette conversion est loin d'avoir tout absorbé. Cette femme est effectivement pathétique, comme vous l'avez dit. Elle est très angoissée. Et je crois également qu'elle a un caractère hystérique. Notamment, son symptôme commence sur le mode oedipien à travers l'histoire du beau-père. C'est aussi un symptôme oral, comme dans l'hystérie. Et sa présentation même est une présentation d'oral. Elle a un très bon contact. Et je crois que c'est une femme qui mérite une psychothérapie. Et d'après ce que je sais, vous l'avez fait entreprendre. C'est typiquement, dans ce genre d'affection, l'indication même d'une psychothérapie.
Après avoir pris les médicaments le soir également, m'a ordonné. Et puis, après, donc, je vais sur mon closet chimique et j'écoute mon transistor avec les écouteurs. Alors là, il n'y a pas du tout de problème. J'ai l'habitude. Alors là, à ce moment-là, je vais très bien. Je vais très bien, mais je vous dirais, je ne suis pas soulagé quand même du premier coup. Avant, j'insistais, mais après, j'étais dérangé au travail, j'étais obligé d'y aller dans le travail. Et c'est pas toujours possible. Parce que des fois, on a des courses urgentes à faire, il faut partir immédiatement, et la Banque de France, ça n'attend pas, et, ou ainsi de suite. Alors là, ce qui fait que j'y vais encore une autre fois avant de partir. Je reste donc moins longtemps la première fois, au réveil. Et puis... ce que j'ai pas pu évacuer, j'y vais avant de partir. Ce qui fait qu'en principe, toute la matinée, je suis pas inquiété par... je suis pas incommodé par l'envie d'aller à la selle. Alors, après déjeuner, pour... au cas où... que je pourrais pas, des fois, y aller dans l'après-midi, j'aurais une course urgente, n'importe quoi, eh bien, j'y vais donc après déjeuner, et en principe, s'il n'y a personne, ça se passe pas mal. Je vous dis, je mets des boules caisses au cas où quelqu'un arrive. Parce que quand il y a quelqu'un à côté de moi, ça me dérange. Même si j'entends la chasse d'eau, je dis, tiens, il y avait quelqu'un. Mais il ne m'a pas incommodé. Même s'il m'a entendu, ça ne me dérange pas. Le toucher.
Il s'agit d'une névrose obsessionnelle typique qui est caractérisée d'une part par des obsessions
et surtout par une personnalité très particulière.
C'est moi,
le patient est précis, rigide, méticuleux, vérificateur, volontiers perfectionniste. Il aime ne pas faire de bruit, il aime pas gêner. Et dans l'ensemble, dans la personnalité obsessionnelle, ce qui peut dominer, ce sont soit les traits de la psychasthénie type Janet, soit les traits du caractère anal des psychanalystes.
Je ne cherche pas, même que la porte à côté est fermée, je ne cherche pas à savoir s'il y a quelqu'un ou pas. Alors là, une première fois, ça va très bien. Alors comme je vous dis, comme je ne suis pas soulagé du premier coup, alors c'est après que les idées viennent. Eh ben, que quelqu'un pourrait venir, ainsi de suite, que l'obsession, si vous voulez. Mais si je pouvais évacuer d'un seul coup tout ce que j'ai évacué, eh bien, j'aurais pas cette idée-là. Parce que je vous dis, quand j'ai vraiment envie, le besoin est tellement fort que j'y vais envers et contre tout.
Et en vacances, alors, parlez-nous de...
Ben, je vous dirais que ça fait très longtemps, pour cette raison-là, que je n'ai pas été en vacances. Alors, on m'a bien dit qu'il y avait la possibilité d'y avoir des vatères particuliers. Mais si, je vous disais que j'ai de moins envie d'aller. Plus on vieillit, moins on aime sortir. Ça serait plutôt... Ça se passe une corvée, maintenant, d'aller en vacances. Faire les mâles et puis tout ça, il y a tellement longtemps que... Exactement comme de me marier. Parce que j'ai eu un moment, j'avais envie de me marier. Maintenant, je suis tellement habitué à la tranquillité, à la liberté. Que...
Mais enfin, pourquoi vous n'êtes pas marié alors?
Puis je vous dirais que j'ai qu'une pièce.
Oui, mais indépendamment de ça, pourquoi vous n'êtes pas marié?
Ben, c'est pour cette raison-là, parce que... D'abord, j'étais incommodé, j'avais énormément de gaz. Alors, vous savez, j'étais toujours obligé de s'en tenir une demi-journée entière quand on est avec une femme. On est pas quand même dans son assiette.
Madame Dupont, Jeannette, 27 ans, comptable, vient consulter pour des crises douloureuses abdominales. Le début de la maladie remonte à 5 ou 6 mois sous forme de points douloureux abdominaux, très variables dans leur localisation.
Tous les malades que nous voyons en gastroentérologie ne sont pas aussi psychiatriques que ceux que nous venons de voir jusqu'à présent. La plupart du temps, c'est-à-dire dans 80% des cas, les malades viennent consulter pour des troubles psychofonctionnels d'allure clinique assez variée, le plus souvent... phénomène dyspeptique ou colopathique. Je voudrais vous dire comment je procède dans ma pratique personnelle. Dans tous les cas, je commence par éliminer toute suspicion de lésion organique grâce aux examens cliniques, biologiques, radiologiques ou endoscopiques qui me semblent nécessaires et, croyez-moi, sans en abuser. L'abord psychologique du malade, je le fais dans tous les cas et de deux façons. D'une part, au cours du dialogue, en essayant de comprendre la personnalité du patient, d'autre part, en étudiant sa biographie, c'est-à-dire son passé ancien et récent. À ce point de vue, j'ai mon petit truc personnel, je cherche deux ordres de faits. Le premier ordre de faits concerne les états conflictuels nés de l'existence d'une contrainte, et pour moi, les ennuis des hommes ne peuvent s'observer que dans cinq domaines. La profession, la famille, l'habitat, l'argent, la sexualité. Le deuxième ordre de faits que je recherche... Ce sont les traumatismes psychiques, c'est-à-dire les chocs affectifs qui peuvent être de nature différente, mais auxquels j'attache une grande importance lorsqu'ils ont été graves ou tout au moins vécus comme tels par les malades. Quand cette quête est terminée, je fais un petit bilan. Ou bien j'ai affaire à une névrose sérieuse et caractérisée, j'envoie le malade chez un psychiatre. C'est lui et lui seul qui décidera de la conduite thérapeutique à suivre. Traitement médicamenteux, psychothérapique, analytique ou non, relaxation ou non, la symptomatologie digestive, de toute façon, j'insiste bien sur ce point, sera traitée conjointement. Ou bien, et c'est le plus grand nombre de mes patients, il ne s'agit tout au moins en apparence que d'états dépressifs ou anxieux, plus ou moins modérés, et j'assume la thérapeutique en associant deux traitements. Un traitement symptomatique des troubles fonctionnels digestifs, un traitement médicamenteux du déséquilibre neurovégétatif, c'est-à-dire que j'utilise généralement les drogues thymoanalyptiques et anxiolytiques. Dans tous les cas, j'explique longuement et patiemment aux malades que l'expression somatique de ces troubles psychiques n'a rien d'humiliant ni de méprisable, que c'est un phénomène parfaitement connu et qui relève d'un traitement précis. Enfin, je renvoie le malade régulièrement, non pas trois fois par semaine, mais tous les mois d'abord, et ensuite tous les deux ou trois mois.
Je vous suis dans l'ensemble. Et je pense qu'on pourrait souhaiter à tous les somaticiens d'avoir cette approche psychologique qui est la vôtre. Mais en jouant l'avocat du diable, je vous attaquerai quand même sur un point. Votre esprit de système. Ne peut-on, tout en gardant un fil conducteur, laisser plutôt venir dans certains cas les événements, notamment à propos de l'exploration préliminaire?
Dans l'interprétation des malades à la frontière du digestif et du psychiatrique, on peut commettre, à mon avis, deux sortes d'erreurs principales. Les erreurs par défaut et les erreurs par excès. Voici le dossier d'un malade où, manifestement, on a fait une erreur grossière par défaut. Ce sujet est porteur d'une hernie hiatale volumineuse, mais l'analyse sémiologique démontre que cette malformation est bien supportée, n'entraînant que très peu de signes digestifs réels. En revanche, ce malade est surtout atteint d'une névrose d'angoisse avec associé des traits obsessionnels. Mais le fait qu'il soit porteur d'une affection organique le conduit à consulter un nombre considérable de somaticiens qui prescrivent des spécialités dont je peux vous faire juge. Voici très exactement ici 104 spécialités auxquelles s'ajoutent 28 somnifères, tout cela au cours de 12 hospitalisations différentes. Il y a eu également 6 interventions chirurgicales. Les antécédents sont multiples, bien sûr, quoique sans gravité. À tout cela s'est associé de la kinésithérapie, de la galvanothérapie, le magnétiseur, les rayons infrarouges, et jamais aucun des médecins consultés, qu'ils soient spécialistes ou généralistes, n'a consenti à demander l'avis d'un psychothérapeute. Mais il y a aussi des erreurs par excès. Je trouve personnellement que les psychiatres affichent souvent vis-à-vis des troubles fonctionnels digestifs un mépris que je trouve non seulement injustifié, mais particulièrement nuisible pour le malade. Tel était le cas chez cet homme.
L'espèce de catastrophe est arrivée, je ne pouvais plus manger, je n'avalais rien, et le médecin traitant m'a dit, eh bien, vous allez faire une cure de sommeil. Je m'y suis refusé, je suis allé voir un de ses confrères, qui, m'ayant à peine examiné, sans avoir retiré ses gants, j'étais chez moi dans mon lit, a dit, je vois ce que c'est, complexe d'Édipe, mère abusive, je vous fais rentrer en clinique. Quelques électrochocs, je me suis refusé d'en avoir plus, voyant les conséquences que cela avait, et puis, dans cette clinique, mes troubles digestifs se sont accentués considérablement, je souffrais abominablement, mais chaque fois que je m'adressais à l'un des médecins de cette clinique psychiatrique. La rengaine était toujours la même. Surtout, ne me parlez pas de vos tripes. Surtout pas ça. Ça a duré encore 2 ans. J'ai fait 4-6 jours en clinique neuropsychiatrique. Ça allait de mal en pis. Je souffrais de plus en plus de l'intestin, de l'estomac. J'ai fait un fécalome et une spécialiste de neuropsychiatrie, je la revois encore, me disait, ah, mais votre fécalome, explication très simple, votre fécalome, il est là. Et j'avais beau demander des examens complémentaires, on me répondait, ah non, surtout pas d'examens complémentaires, surtout pas, votre cas est très net. J'ai fait 4 séjours, l'ai-je dit, en clinique psychiatrique. Et puis, j'ai consulté 12 médecins psychiatres, psychanalystes, jusqu'au jour où l'un d'entre eux a bien voulu m'adresser à un spécialiste de gastro-entérologie. On a fait une radio très sérieuse, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je maigrissais effroyablement lorsque je suis entré à l'hôpital. Je pesais 56 kilos pour une taille d'1m78. Et à l'hôpital, j'ai été pris en main d'une part par le gastro-entérologue qui m'a indiqué un traitement relativement simple et en même temps par le neuropsychiatre qui était son ami.
En somme, on peut avoir des troubles psychiques et une colopathie de fermentation authentique. Voici la coprologie qu'on pourrait dire caricaturale de ce malade, coprologie de colite de fermentation et de putréfaction qui relevait évidemment d'un traitement approprié. D'ailleurs, est-ce qu'on ne traite pas les formes d'hyperthyroïdie et d'ulcère gastro-duodénal qui sont d'origine psychosomatique comme des maladies thyroïdiennes ou gastro-duodénales?
Je pense que ce malade nous montre d'abord que la psychiatrie appartient à la médecine, puisque les psychiatres dans son cas ont été aussi agressifs, tout au moins, que les médecins. Ce malade, qui est actuellement un bien portant tout en restant un grand malade, nous montre aussi le manque de liaison considérable qui existe entre psychiatres et entre médecins. Et peut-être la responsabilité incombe-t-elle plutôt aux institutions.
On n'en finirait pas si nous voulions citer tous les symptômes psychofonctionnels qu'on peut rencontrer en gastroentérologie, depuis les ballonnements, certaines constipations, les diarrhées motrices, l'entérocolite mucomembraneuse, etc. Mais dans tout ce fatras de symptômes, je voudrais insister sur l'un d'entre eux parce que, d'une part, il me semble trop méconnu et il est très souvent cause d'erreurs diagnostiques. Il s'agit de douleurs épigastriques que le malade rapporte naturellement à son estomac et pour lesquelles, à tout coup, il vient consulter le gastro-entérologue. Celui-ci ne constate aucune lésion, pas d'ulcère, pas de tumeur, et a tendance à laisser le malade à son triste sort. Eh bien, pour faire le diagnostic précis de cette douleur, deux éléments fondamentaux me semblent relever de l'examen clinique tout à fait simple. Cette douleur, en effet, d'une part, est localisée très exactement au niveau d'une aorte généralement hyperpulsatile. Alors, soit qu'elle intéresse toute l'aorte et ses branches de division, c'est la classique douleur en lambda, soit qu'elle intéresse seulement un segment de cette aorte. Et deuxièmement, autre caractère fondamental, cette douleur provoquée par le palpé reproduit fidèlement la douleur spontanée.
Ah là, oui. Ici, oui.
Ici, c'est ici.
Oui.
Est-ce que cette douleur correspond exactement à celle que vous ressentez spontanément?
Oui, exactement.
C'est exactement la
oui,
même?
Oui, docteur. Exactement.
Bien entendu, ces douleurs qui ont reçu dans la littérature de nombreuses dénominations, célialgie, plexalgie, sympathalgie, sont dans la plupart des cas d'intensité modérée et régressent avec un traitement simple. Mais il est des formes graves sur lesquelles je voudrais insister. La ténacité souvent extraordinaire de ces douleurs qui peuvent évoluer sur des mois, sur des années, quelquefois sur 12 ans, comme dans cette observation, et fait remarquable, ces douleurs entraînent une anorexie presque à tout coup. En tout cas, le malade réduit de lui-même considérablement son régime. Il en résulte des pertes de poids absolument énormes. Eh bien, dans ces cas, on peut dire qu'il s'agit bien d'un syndrome psychofonctionnel, mais qu'il est grave par son retentissement sur l'état général. On ne peut pas l'aborder d'emblée par des méthodes psychothérapiques. Il faut sortir le malade de son syndrome douloureux et les meilleurs résultats sont obtenus par l'association de drogues de type thymoanalytique et anxiolytique ou de drogues anxiolytiques prises isolément.
Je voudrais ajouter que la psychiatrie fait partie de la médecine, mais garde un aspect spécifique non comparable aux autres spécialités. Que l'étude de la relation médecin-malade devient aujourd'hui aussi scientifique qu'une théorie physiopathologique. Et enfin, que le psychofonctionnel est un fourre-tout comprenant des patients légers et graves, les uns sur le versant plutôt somatique et les autres sur le versant plutôt psychologique.
Si nos points de vue sont forcément différents sur le plan doctrinal, au moins serons-nous d'accord pour regretter qu'il n'y ait pas une meilleure collaboration entre les psychiatres et les internistes. Psychiatriser à l'extrême une situation, c'est aussi mauvais que l'organiciser exagérément. Cette erreur risque en effet de se retrouver sur le plan thérapeutique, car les différents traitements que l'on peut utiliser ne sont pas forcément exclusifs les uns des autres. Freud était bien persuadé lui-même de cette vérité, puisqu'il a écrit « L'avenir nous apprendra à agir directement à l'aide de certaines substances chimiques sur les quantités d'énergie et leur répartition dans l'appareil psychique, peut-être découvrirons-nous alors d'autres possibilités thérapeutiques insoupçonnées.